Bonjour et bienvenue dans ce repos musical que nous allons consacrer aujourd'hui à trois musiciens baroques français, François Couperin, Jean-Ferry Rebel et Marin Marais. Ils font partie de ce que l'on a appelé le Parnasse français. De quoi s'agit-il ? Le Parnasse français était le nom d'un monument qui a été décrit par le littérateur Évrard Titon du Tillet, mais ce monument n'a jamais vu le jour. Il devait être érigé à Paris à la gloire de Louis XIV, mais aussi de la littérature et de la musique française. Dans sa description du monument, Titon du Tillet évoquait et faisait l'éloge de 259 écrivains et musiciens français considérés comme l'élite de leur art que ce monument devait immortaliser. Eh bien, au nombre de ces artistes figuraient les compositeurs François Couperin, Jean-Ferry Rebel et Marin Marais. Nous allons non pas leur ériger aujourd'hui un monument, mais leur rendre un certain hommage en écoutant de leur composition. Nous commencerons par Marin Marais en écoutant une sonate à la Marésienne qu'il composa en 1717. Voici le premier mouvement. Cette sonate est écrite pour violon, basse continue, viol de gambe et clavecin. Cette sonate, un peu intimiste, même si elle fut écrite après la mort de Louis XIV, représente bien les compositions musicales qui, quelques années avant sa mort, étaient proposées au roi Louis XIV. En effet, dans les dernières années de sa vie, Louis XIV connut des heures sombres avec de graves maladies, de nombreux décès dans la famille royale, des échecs politiques, des famines, des épidémies. Alors le roi Soleil se retira dans le cercle de plus en plus restreint de sa famille. Et presque tous les soirs, il écoutait un concert dans les appartements de Madame de Maintenon. Les fastueuses et coûteuses représentations d'opéra et de ballet dans la cour du château de Versailles, sur le Grand Canal ou au Trianon appartenaient au passé. Désormais, cette musique plus intime, appelée encore musique de chambre, fut la seule à avoir encore les grâces du souverain. Cette sonate de Marin Marais, appelée la sonate à la marésienne, nous est interprétée par le Musica Antica Köln sur des instruments d'époque et sous la direction de Reinhard Goebel. Je vous propose maintenant le troisième mouvement de cette sonate. À travers cette musique, on imagine bien les fêtes qui animaient le château de Versailles, toutes de légèreté, mais aussi de raffinement. On aimait écouter de la musique, c'est vrai, mais on aimait aussi danser, comme nous le suggère ce quatrième mouvement de la sonate, constitué par une sarabande. Nous consacrons donc ce repos musical à trois compositeurs français qui ont trouver place dans ce que l'on a appelé, peu après la mort de Louis XIV, le Parnasse français, c'est-à-dire un choix d'écrivains et d'artistes, notamment musiciens, qui faisaient, semble-t-il, partie de l'élite de leur époque. Et nous avons commencé par rendre hommage donc à l'un d'eux, Marin Marais, qui fut longtemps présent à la cour du roi Soleil à Versailles. Et nous écoutons sa sonate à la Marésienne. Il faut savoir que Marin Marais a été, à son époque, le plus grand maître de la viole de gambe, un instrument qui, en France, ne fut supplanté par le violoncelle que vers 1740. Marin Marais a écrit 4 opéras, 5 livres, 2 pièces de viol, mais également des pièces en trio pour flûte au bois ou violon. Marin Marais étudia ce qu'on appelait à l'époque le goût étranger, c'est-à-dire le goût italien, qui ne cessait de gagner du terrain. Mais cela ne fut pas sans exprimer une certaine ironie à l'égard de cette musique au caractère recherché, construit, peu naturel, musique qui n'était pas en odeur de sainteté au château de Versailles à l'époque de Louis XIV. Je vous propose maintenant d'écouter le 5e et le 6e mouvement de cette sonate pour violon, basse continue, viol de gambe et clavecin. Comment ne pas évoquer avec Marin Marais ce si beau film qui a retracé son parcours? Je veux parler de Tous les matins du monde, un film d'Alain Corneau, d'après le roman de Pascal Quignard, où le rôle de Marin Marais jeune était joué par Guillaume Depardieu, celui du musicien âgé étant interprété par Gérard Depardieu. On y voit toute l'ascension de Marin Marais, notamment à la cour de Versailles, et tout le lien qu'il a lié au compositeur Monsieur de Sainte-Colombe. Nous achevons l'écoute de cette sonate à la marésienne par le dernier mouvement qui est une gigue. Le second musicien compositeur faisant partie de ce Parnasse français que nous évoquons aujourd'hui, c'est François Couperin, peut-être le plus connu des trois. François Couperin était issu d'une famille de musiciens qui exerçaient leurs activités à la cour de Versailles et à l'église Saint-Gervais de Paris. Entré en 1693 au service du roi comme organiste, il acquit en 1696 un titre de noblesse et assuma de plus en plus souvent les fonctions revenant au claveciniste de la cour. Il s'agissait d'un certain d'Anglebert, mais qui fut frappé de cécité. Il participa de façon prépondérante au fameux concert du dimanche, pour lesquels il écrivit ses concerts royaux. Je vous propose d'écouter comme œuvre de François Couperin la sonate intitulée « La Sultane », dont voici le premier mouvement. C'est une sonate pour violon, viol de gamme, basse continue, clavecin. Elle est interprétée pour nous par le Musica Antica Köln sur des instruments originaux et sous la direction de Reinhard Goebel. François Couperin, devenu en 1694 maître de clavecin des enfants de France, eut pour élève le dauphin, petit-fils de Louis XIV, et son épouse Marie-Adélaïde, duchesse de Bourgogne. C'est à elle que fait allusion le titre « La Sultane ». Un récit contemporain dû au marquis de Sourches nous apprend en effet que la duchesse se rendit en 1700 à un bal masqué. Le bal commença à 8 heures à Marly. La duchesse de Bourgogne y était en sultane, galamment vêtue, puis marchaient 2 autres sultanes, ensuite le sultan. En cet ordre, la marche se fit au son de la marche des janissaires, jouée par tous les instruments de bal. Cela explique sans doute ce que le compositeur voulait exprimer par la sultane. La sonate constitue donc un hommage à la dauphine Marie-Adélaïde, morte en 1712. Nous avons entendu le premier mouvement introductif qui s'intitule « Gravement », effectivement, dans lequel il n'est pas difficile de reconnaître comme un « lamento ». Il se base sur d'autres motifs douloureux comme le « Stabat Mater » de Stéphanie ou le « Tombeau de Monsieur Méliton » de Marin Marais. Le deuxième mouvement que nous allons écouter maintenant utilise le même motif, mais comme thème de fugue. À l'air, dans le style de Lully, succède un gravement à la manière d'une ouverture, puis une marche de janissaire stylisée. Un fugato conclut l'œuvre, dont la date de composition devrait se situer entre les années 1712 et 1714. Thank you. Nous venons d'entendre la sonate La Sultane, une œuvre de François Couperin, avec ses quatre mouvements pour violon, viol de gambe, basse continue et clavecin, interprétée par le Musica Antica Köln sur instruments originaux et sous la direction de Rainer Goebel. Intéressons-nous maintenant au troisième compositeur qui fait partie de ce fameux Parnasse français. Il s'agit de Jean Ferry Rebel, peut-être le moins connu des trois. Il était lui aussi issu d'une famille de musiciens en activité à la cour. Le chemin lui était donc tout tracé. Il fut d'abord violoniste, puis claveciniste, et ce que l'on appelait alors à l'époque batteur de mesure dans plusieurs ensembles de Paris et de Versailles. En plus d'un opéra, sa production comprend deux volumes de sonates, des compositions vocales aussi et de nombreuses œuvres symphoniques. Je vous propose de découvrir l'une d'elles qui s'intitule « Le tombeau de Monsieur de Lully ». On présume que Lully a été son maître et cette œuvre vit le jour dès 1695. Mais elle ne fut imprimée qu'en 1712 ou 13. L'œuvre n'a rien de commun avec les tombeaux allemands riches d'émotions qu'écrivaient les clavecinistes et les luthistes de cette époque, ni avec les formes libres du tombeau pour viol de gambe. C'est dans les scènes de lamento des opéras de l'époque qu'il convient d'en chercher les modèles. Nous écoutons le premier mouvement de cette sonate « Tombeau de Monsieur de Lully ».
Thank you.
Après ce premier mouvement grave, qui marque avec une grande solennité la tristesse de la disparition de ce grand homme, grand musicien, grand compositeur, qu'était Lully, vient un second mouvement beaucoup plus vif, marqué et gai, qui peut-être est une sorte d'évocation de la vie de Lully, de l'importance qu'il a pu avoir dans le monde de la musique, notamment à la cour de Versailles. On passe donc de la tristesse à une évocation beaucoup plus vive, réelle, beaucoup plus enjouée avec ce deuxième mouvement. Retour à une certaine gravité avec le troisième mouvement qui va suivre, comme si en fait notre émotion par rapport à quelqu'un de disparu ne faisait sans cesse qu'osciller entre la tristesse, la peine et puis les bons souvenirs, j'allais dire, les joies qui reviennent à la surface et que nous avons connues avec cet être disparu. Le troisième mouvement évoque comme les plaintes émises par le genre humain devant la disparition d'un être cher. Rendons-nous maintenant au dernier mouvement de cette symphonie de Jean Ferry Rebelle, intitulée « Tombeau de Monsieur de Lully ». Le dernier mouvement nous fait pressentir que la création tout entière vibre lorsque l'un être de la stature de Monsieur de Lully disparaît. Et Rebelle va ici évoquer les éléments naturels. Nous distinguerons un tremblement de terre, des vagues successives, et l'œuvre s'achèvera par une sorte de terrible séisme qu'a dû connaître Jean Ferry Rebelle à la mort de son maître Lully. Ainsi s'achève notre repos musical. Nous l'avons passé avec trois artistes du Parnasse français, Marin Marais, Jean-François Couperin et Jean Ferry Rebelle. Je vous souhaite une bonne continuation d'écoute de nos programmes.